Alors, je vais lire le premier paragraphe en anglais. He had lost his magic. The impulse was spent. He had never failed in the theater. Everything he had done had been strong and successful. And then the terrible thing happened. He could not act. Going on stage became agony. Instead of the certainty that he was going to be wonderful, he knew he was going to fail. It happened 3 times in a row, and by the last time, nobody was interested, nobody came. He couldn't get over to the audience. His talent was dead. Alors, rien que le choix de la double utilisation du mot fail, par exemple, de faillir, le fait de parler de agonie dans le sentiment qu'il avait lorsqu'il montait sur scène, la terminaison du paragraphe par his talent was dead, etc. Tout ça est d'une extraordinaire clarté, avec en plus l'utilisation que l'anglais permet d'énormément de mots monosyllabiques qui rendent le texte encore plus compact. Alors, si on lit le premier paragraphe en français, il avait perdu sa magie. L'élan n'était plus là. Au théâtre, il n'avait jamais connu l'échec. Ce qu'il faisait avait toujours été solide, abouti. Et puis, il s'était produit cette chose terrible. Il s'était soudain retrouvé incapable de jouer. Monter sur scène était devenu un calvaire. Au lieu d'être certain qu'il allait être extraordinaire, il savait qu'il allait à l'échec. Cela se produisit 3 fois de suite, et à la troisième, cela n'intéressait plus personne, personne n'était venu. Il n'arrivait plus à atteindre le public, son talent était mort. C'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est dilaté, distendu. Et là, il y a une donnée intéressante, parce qu'il m'a été donné d'interviewer une autre traductrice de Roth que celle qui a fait cette traduction, qui s'appelle José Caran. José Caran est la traductrice de La bête qui meurt, une très très belle traduction d'ailleurs, et d'autres livres de Roth. Elle a même été sollicitée pour refaire une traduction de La contre-vie. C'est dire, je crois que Roth lui-même doit l'apprécier beaucoup. Et je l'ai interrogée sur sa méthode de travail et sur ses contacts avec Roth. Et alors, elle m'expliquait qu'elle avait une certaine difficulté à le rencontrer et à l'apprivoiser. Et puis que ça avait fini par se produire. Et que Roth avait pris le temps de vérifier avec elle la traduction complète de ce roman, qui n'est pas très long non plus d'ailleurs. Mais Roth ne connaît pas le français. Alors, en quoi consistait cette vérification? Eh bien, dans le studio que Roth occupe à New York, parce qu'il vit essentiellement dans une ferme du Massachusetts, il demandait à sa traductrice de lui lire. Il lisait le texte en anglais et elle lui demandait de lui lire le texte en français, toutes les 5 ou 6 phrases. Et ce qu'il vérifiait, c'était le rythme. Et le rythme, évidemment, est un indice, surtout quand on ne connaît pas la langue, par exemple, du nombre de syllabes, de la longueur des mots, de la longueur des phrases. Le rythme dans la correspondance d'une langue à l'autre est quelque chose de très important. La preuve, c'est qu'en poésie, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ou on décide de traduire selon la prosodie d'origine, où on s'en écarte, mais on le fait consciemment. Eh bien, c'est la même chose dans toutes les formes, y compris la prose, et surtout une prose aussi maîtrisée que celle de Roth, qui est une prose extrêmement simple au premier abord, mais très, très scandée, avec une, on l'a senti dans la lecture du premier paragraphe, avec une attention à la syllabe près. L'attention à syllabe près, ça existe au théâtre, ça existe en poésie, comme je le disais, ça existe aussi dans le roman. Et surtout quand on a affaire à un vrai grand styliste comme Roth. Alors ici, je m'inquiète un petit peu parce que On nous donne à lire un livre d'un écrivain considérable, on bute déjà sur le titre, pour les raisons qu'on vient de dire, et puis on est en droit de se demander si on n'a pas un sous-produit qui raconte l'histoire, bien sûr, qui en énumère les épisodes et qui même les détaille de phrase à phrase, mais sans qu'il y ait ce ton. Et chez Roth, beaucoup tient au ton, comme chez beaucoup d'écrivains qui ont une dimension humoristique. On sait très très bien qu'on ne peut pas raconter une blague de n'importe quelle façon. Il y a une stratégie de l'énonciation de la blague. Et lui qui a écrit des livres franchement comiques, comme des satires de Richard Nixon, qu'il appelait Tricky Dixie, etc., il en connaît les lois. Et il conserve même dans des livres dur et pathétique, comme celui-ci, parce qu'il se termine tragiquement, cette même attention à la forme. Alors on n'a pas souvent l'occasion aujourd'hui de vraiment s'interroger sur la forme, parce que dans les romans, on ne peut pas dire que ça préoccupe grand monde. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui en est encore capable, autant le respecter.